Fréquence 100.9 The West.
Radio X Files avec Christian Page et Camille.
Oh my God.
Radio X.
Et c'est Elizabeth Short.
Ne me quitte pas, Richard. Dis-moi que tu m'aimes.
Mademoiselle Short, c'est une scène très triste. Vous pensez que vous êtes capable de jouer la tristesse?
Oui, je peux le faire.
Elle s'appelait Elizabeth Short. Elle était jeune et belle. Bien décidée à devenir célèbre. Destinée à l'être atrocement.
Écoutez-moi bien. Aucun journaliste ne doit voir le corps.
La victime a été coupée en deux. Elle a été vidée de tous ses organes et de son sang. Et sa bouche a été ouverte d'une oreille à l'autre.
Ce fut le meurtre le plus célèbre de l'histoire de la Californie. Pour le public, c'était un meurtre à sensation.
Nous allons arrêter ce tueur.
Pour nous, ça devenait une obsession.
Fais quelque chose, il est comme ça depuis hier soir.
Les coulisses du pouvoir.
Qu'est-ce que je dois faire pour que mon nom n'apparaisse pas?
À la flicaille du caniveau.
Elle ressemble à la morte, tu es complètement fou.
Chaque vie impliquée était anéantie.
J'ai fait l'amour avec Elizabeth une fois. Je voulais voir comment c'était de le faire avec une fille qui me ressemblait autant.
Rien ne reste enterré à tout jamais. Rien.
Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu me trouves belle.
Je vous souhaite la bienvenue sur les ondes de Choix 98.1 Radio X dans les émissions du Radio X Files, édition du vendredi 3 novembre 2023. Au lendemain de l'Halloween, on demeure tout de même dans la thématique de l'horreur. Et je sais pas si c'est votre cas, mais ce sera le mien ce soir. Monsieur Christian Page va m'apprendre une histoire qui est basée, en fait, sur une histoire vraie, un film de 2006 que je ne connaissais pas du tout l'existence, le Dahlia Noir. C'est la bande-annonce qu'on vient d'entendre. Mais on recule dans les années 40 pour l'histoire ce soir, Christian?
Absolument. On est aujourd'hui, on aborde l'un des crimes énigmatiques les plus populaires de l'histoire des États-Unis.
Okay.
Même si dans la bande-annonce, on les a, c'est le crime le plus célèbre de la Californie ou de Los Angeles.
Je mettrais pas... quand même les Manson avant, là.
Voilà, ah, c'est ça. Donc, là, c'est... Ouais, voilà. Donc, on spéculera pas trop là-dessus. Le crime le plus célèbre du tout Hollywood, ça demeure les crimes de Manson avec l'assassinat de Sharon Tate en 1969. Mais très rapidement, dans les crimes non résolus aux États-Unis, on a souvent parlé, on a parlé ensemble des crimes du Zodiac, le tueur, le Mad Butcher, les crimes on l'appelait le boucher fou là, de Cleveland, là, le Mad Butcher of Cleveland, on a fait un truc là-dessus, des crimes qui sont demeurés non résolus. Mais dans cette catégorie, là, si on devait choisir là, parmi les 5 ou 10 crimes américains les plus célèbres et pour lesquels on n'a pas trouvé de coupable, sans aucun doute, le crime de la Dahlia Noire serait parmi eux. Comme tu l'as mentionné, ce qu'on vient d'entendre était une bande-annonce d'un film de 2006 de Brian De Palma qui s'intitulait The Black Dahlia. Ça mettait en vedette notamment le Mia Kirshner, Hilary Swank, Scarlett Johansson, Josh Hartnett. Et ce film-là, il s'inspirait librement d'une des théories, parce que tu vas le voir, on va en passer quelques-unes des théories à propos du meurtre de Elizabeth Short, qui était son vrai nom, la fameuse Dahlia Noire. D'ailleurs, le nom de Dahlia Noire, ça nous vient de plusieurs éléments. C'est difficile de déterminer d'où est apparu ce nom. Il faut savoir qu'un an avant la mort d'Elizabeth Short. Il y a un film polar noir qui était apparu sur les écrans, qui mettait en vedette Veronica Lake et Alden Ladd. Alden Ladd qui s'était surtout distingué pour des westerns, mais cette fois-là, il avait tourné dans un polar noir qui s'appelait justement The Black Dahlia.
Okay.
Donc c'est un film de 1946, un an avant le meurtre d'Elizabeth Short. Et Elizabeth Short s'était fait surnommer un peu Black Dahlia parce que elle s'habillait toujours de noir et on raconte que l'un de ses parfums favoris était le parfum de la fleur, le dahlia. Donc, comme elle s'habillait en noir, elle se parfumait au dahlia. On l'avait surnommé la dahlia noire. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on a dit à propos d'Elizabeth Short qui sont inexactes. Beaucoup de choses qu'on a racontées dans les médias. On a monté ce crime-là en épingle. Abordant toutes sortes d'hypothèses un peu invraisemblables, déjà d'ailleurs dans la bande-annonce qu'on a entendue qui dure 1 minute 56 secondes, il y avait 4 choses qui étaient fausses dans cette bande-là.
Okay.
Déjà en 1 minute, en moins de 2 minutes, on avait déjà 4 choses qui étaient fausses. On va revenir là-dessus. Ouais, on va essayer de rectifier là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un crime qui a alimenté énormément de spéculations. C'est un crime qui a marqué l'imaginaire. Et il a marqué l'imaginaire surtout à cause du crime, de la monstruosité du crime lui-même. Donc, on va commencer d'abord par le crime et ensuite, on va essayer de décanter. Donc, on le dit tout de suite pour les gens qui nous écoutent. On est ce soir dans la thématique de nos crimes mystérieux, crimes occultes et bizarroïdes. Donc, avis aux oreilles sensibles parce qu'il y a des détails qu'on va raconter à propos de ce crime-là qui sont tout à fait monstrueux.
Okay.
Donc, les gens sont déjà prévenus. Donc, l'affaire d'Elizabeth Short débute le 15 janvier 1947. Donc, ce jour-là, on va découvrir le corps. On est sur un lot vacant qui se trouve à l'intersection de la 39e avenue et de la rue Norton. À l'époque, c'était un endroit qui était en plein développement. Là, c'était assez désert. Aujourd'hui, pour y être passé il y a quelques années en voiture, on ne reconnaît pas les lieux. Là. Je veux dire, tu arrives là, puis tu peux pas savoir où était ce terrain vague sur lequel on a trouvé le corps, parce que le milieu a tellement changé. Donc, on trouve un corps, et pour avoir vu les photos, là, c'est très frappant. Le corps a été coupé littéralement en deux. Là. Mais c'est pas vraiment coupé net, là, en deux, à partir de la taille. Et les deux morceaux du corps ont été placés sur le lot vacant. Ils ont été placés de manière à être très choquante. Hein. Donc, on a la partie du haut du corps, où on a la tête, tout ça. Les bras sont légèrement repliés. Et ensuite, à peu près à... comme s'ils avaient été placés, là, alignés l'un vers l'autre. C'est pas jeté n'importe comment, c'est okay. Vraiment aligné. Là. Donc, à peu près, je te dirais, un 45 cm, 50 cm en dessous de là où le corps, le torse, la taille s'arrête. Ben, on a la partie basse du corps qui inclut la région pelvienne, les jambes, tout ça.
My God.
Et l'assassin a volontairement placé le corps d'Elizabeth Short. Il l'a placé à ce moment-là, on ne sait pas que c'est Elizabeth Short, bien sûr. On voit bien là, quand les parce que c'est des randonneurs qui l'ont trouvé, une dame qui promenait son chien qui trouve le corps. Et là, évidemment, les policiers vont entourer la chose. Et on voit bien que c'est une jeune femme, début de la vingtaine, le corps coupé en deux, et son assassin a placé le corps. Il a profité, bien sûr, du fait que l'endroit est à peu près désert, donc il a jeté le corps là, visiblement en fin de nuit. Le médecin légiste va établir qu'elle a été assassinée soit la veille au soir ou au tout début de la nuit, là, entre quelque part 22h et à peu près 2h du matin, donc quelques heures avant que le corps soit trouvé. Et l'assassin a placé le corps de manière à ce que la victime soit dans une position qui est choquante. Hein? Donc, il l'a placé, les jambes bien écartées, bien visibles depuis le bord du trottoir de la rue pour qu'on la voit bien. Donc, il y a tout un scénario là, visiblement, qui a été pensé par le tueur au moment de déposer le corps d'Elizabeth Short. Elle va être identifiée par des empreintes digitales parce que, bon, elle avait été arrêtée là, quelques années plus tôt.
Alors oui, quand on cherche son nom, c'est un mugshot qui sort en premier. Là.
Voilà, donc le mugshot, c'est ça. Elle avait été arrêtée en 1943. Elle habitait à l'époque à Santa Barbara et elle avait été arrêtée dans un bar pour consommation d'alcool. Il faut savoir qu'à l'époque, hein, l'âge légal pour consommer de l'alcool dans un bar était 21 ans. Donc, Elizabeth Short n'avait pas 21 ans à ce moment-là. Hein. Elle est née en 1924. Donc, à ce moment-là, elle avait 19 ans et elle a été donc arrêtée et elle vivait chez son père à ce moment-là. Elle était retournée en Floride, ben, chez sa mère en Floride et après ça également au Massachusetts. Elle venait d'ailleurs de cette région-là, mais on reviendra là-dessus un peu plus tard. Mais donc, c'est ça. Donc, la première chose, comme tu le dis, si on fait une recherche, c'est le mugshot qui sort, le mugshot de 1943 et par les empreintes digitales qui avaient été prises à ce moment-là, on a pu rapidement identifier le corps retrouvé là, sur ce lot vacant comme étant celui d'Elizabeth Short. Il faut le dire, contrairement à la bande-annonce qu'on vient d'entendre, ses organes n'avaient pas été enlevés. Là. Elle avait tous ses organes, même si une partie des intestins avait sorti, parce qu'évidemment, le corps coupé en deux, l'assassin avait comme placé ses intestins près d'une des hanches.
Okay.
Donc, le médecin légiste, hein, bon, le rapport du légiste a été fait, l'autopsie a été faite le lendemain par le docteur Frédéric Newbar, et ce qu'il a pu déterminer, bon, on va le voir, il y a plusieurs choses qu'on a racontées. Bon, un, son corps ne manquait pas d'organes. Ça, c'est clair que contrairement à ce qu'on entend dans la bande-annonce, tous les organes étaient là. Elle avait été... l'assassin l'avait coupée en deux. D'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup d'hématomes autour de la coupure, ce qui montre qu'elle a été coupée en deux après être morte. Contrairement également à ce qu'on avait dit, elle n'avait pas été torturée. Elle avait des lacérations sur le corps, mais assez légères. Elle avait des marques d'abrasion autour des poignets, autour des chevilles, ce qui semble indiquer qu'elle a été maintenue à un moment donné, ligotée, mais il n'y avait pas de marque, contrairement à ce qu'on retrouve parfois dans la littérature. On dit, elle a été torturée. Il n'y a pas de marque de torture. Il n'y avait pas non plus de marque de mégots de cigarette, comme de quoi on aurait éteint des cigarettes sur elle. Ce que l'on voit d'ailleurs dans le film de Brian de Palma, mais il n'y a absolument aucun élément dans les éléments du médecin légiste qui va étayer cet élément-là. Petit détail, parce qu'on va revenir là-dessus, parce que ça a joué beaucoup dans les conditions également dans les hypothèses qu'on a évoquées pour essayer de justifier sa mort. Contrairement à certaines légendes également qu'on raconte, on disait que Elizabeth Short, c'était une allumeuse. Hein, on va revenir là-dessus sur sa vie hollywoodienne. C'était une allumeuse. Puis certains ont dit... Ah, Elizabeth Short était née avec une malformation. Elle avait une hypertrophie du vagin. Donc, elle pouvait pas avoir de relations sexuelles normales, ce qui est absolument faux. Hein. Mais le rapport du médecin légiste est clair là-dessus. Elle avait des organes génitaux féminins tout à fait normaux. Là. Il n'y avait pas d'atrophie. Si elle refusait d'avoir, dans certains cas, elle jouait les allumeuses, elle refusait d'avoir des relations sexuelles, elle a peut-être, elle, entretenu ce mythe-là, mais... médicalement, il n'y avait rien qui allait dans ce sens-là. On a dit également qu'elle avait été frappée à plusieurs reprises au visage et qu'elle avait eu les dents brisées, ce que le rapport du légiste ne montre pas. Ce qu'il montre toutefois, c'est qu'elle avait une mauvaise dentition. Hein, elle avait plusieurs caries, elle avait plusieurs dents qui étaient pourries, mais elle n'avait pas été frappée au point qu'on y avait fait éclater des dents dans la bouche. Son assassin avait, au-delà de l'avoir coupée en deux, on sait qu'elle a été tuée ailleurs. Elle n'a pas été tuée sur ce terrain vague. Elle a été déposée sur le terrain vague, d'où le fait que son corps n'avait pas de sang. Visiblement, il s'est vidé à l'endroit où elle a été assassinée. Évidemment, on comprend que si on l'a coupé en deux, il a dû avoir une perte conséquente, hein, une perte conséquente de sang. Le corps avait été lavé et son assassin lui avait également, là, si on peut dire, les marques de violence importantes, au-delà du fait qu'elle avait été sectionnée en deux. C'était une déchirure de chaque côté de la bouche. On y avait fait un sourire allant jusqu'aux oreilles. Là. Tu vois, genre là, un sourire presque à la Joker.
Fait que ça, c'est la portion de la bande-annonce qui est vraie.
Oui, absolument. Okay. Donc, on a déchiré son visage au point de lui faire une bouche là, énorme. Et ensuite, donc, il y avait, comme je l'ai mentionné, il n'y avait aucune marque de torture. La cause de la mort, le médecin légiste a établi que c'était une hémorragie sévère. Elle n'avait pas le crâne défoncé, elle n'avait pas de marque, elle n'avait pas été frappée par un objet contondant. Visiblement, l'assassin l'a coupé, puis éventuellement elle a commencé à saigner. Puis bon, ensuite de ça, lorsqu'elle est morte, ce n'est qu'une fois morte que son assassin l'a coupé en deux. Et il l'a visiblement aussi, il a lavé le corps avant de s'en débarrasser aussi, parce que il n'y avait pas sur le corps d'Elizabeth Short de marque de sang. Là. Il n'était pas maculé de sang, donc ce qui montre que l'assassin l'avait lavé avant de la jeter sur ce terrain vague. Et ensuite, comme je l'ai mentionné, hein, l'assassin avait volontairement placé le corps de manière à ce qu'elle soit dans une position sexuellement très choquante.
Ah oh, ouais.
Donc les médecins,
des granats du début à la fin, cette histoire-là.
Ouais, puis j'ai en archive des photos du corps d'Elizabeth Short tel qu'il a été trouvé sur place. Je sais pas, j'hésite, mais peut-être qu'après l'émission, j'en mettrai peut-être une ou deux pour que les gens voient à quoi ressemblaient les photos. Parce que les photos qu'on voit sur le web, c'est le corps, mais recouvert d'une bâche ou d'une couverture. Mais moi, en archive, j'ai des photos du corps pris par les policiers au moment où ils sont arrivés sur place. Puis c'est assez monstrueux comme crime.
Okay.
Donc, elle est amenée à la morgue. Et là, bon, on identifie que c'est Elizabeth Short. Donc, qui est cette Elizabeth Short? Ben, elle a eu une vie assez débridée, hein, même si elle était jeune. On sait qu'elle est née en juillet 1924 à Hyde Park, qui est une banlieue de Boston, au Massachusetts. Elle est arrivée en Californie en 1942. Elle a fait un séjour un peu en Floride chez de la famille. Et à ce moment-là, la mère vivait divorcée du père et la mère laissait sous entendre que le père était décédé. Quoi qu'il en soit, le père en question n'était pas décédé, donc Elizabeth Short, qui la dernière fois avait vu son père à l'âge de 6 ans, elle va apprendre là, 1941-1942, que son père vit toujours, il s'est établi en Californie, donc elle va faire une demande pour aller le rejoindre, et c'est comme ça qu'elle va débarquer éventuellement en 1943, et se retrouve à Santa Barbara, où éventuellement, comme on l'a mentionné, elle va être arrêtée pour une consommation d'alcool en dessous de l'âge de 21 ans. À cause de ça, elle va être retournée chez sa mère, puis parce que c'est sa mère qui a la garde légale. Même si Elizabeth Short a 19 ans, c'est sûr que ça nous paraît un peu étrange aujourd'hui, là, mais à l'époque, il faut toujours se rappeler que l'âge légal était 21 ans. Donc, elle est retournée chez sa mère, mais éventuellement, après un court séjour sur la côte est américaine, d'ailleurs, elle va rencontrer un individu qui va lui proposer de se marier à elle, un militaire, mais malheureusement, le militaire en question va décéder là, donc durant la Deuxième Guerre mondiale dans un crash d'avion, donc okay. Le mariage ne sera pas consommé, et éventuellement, donc Elizabeth Short va retourner vivre en Californie. Rapidement, le torchon brûle entre elle et son père, donc elle va se trouver un emploi de serveuse, elle va partager un appartement avec une autre femme. Donc, dans le film également, hein, non seulement, bon, on l'avait pas vidé de ses organes, mais lorsqu'on entend la bande-son du film de Brian De Palma, et si on voit le film de Brian De Palma, on voit que Elizabeth Short fait de courts essais pour aller au cinéma. D'ailleurs, la première scène, on entend le réalisateur qui lui dit « c'est une scène dramatique, êtes-vous capable de jouer le drame, etc. » Ça, c'est jamais arrivé. Elizabeth Short, comme plein de jeunes femmes qui se retrouvaient en Californie, qui se retrouvaient dans la grande région de Los Angeles, rêvait de devenir une actrice de cinéma. Et c'est vrai que Elizabeth Short avait confié à des amis autour d'elle qu'elle aimerait faire du cinéma. Mais il faut savoir que à cette époque, hein, la grande période du cinéma hollywoodien, c'était l'âge d'or du cinéma. Il y avait le milieu très fermé des acteurs et des actrices. Ensuite, il y avait le cercle un peu plus grand des amis des acteurs et actrices. Puis ensuite, il y avait le cercle des amis des acteurs et actrices. Et ensuite, le cercle des amis des acteurs et actrices.
Et leurs employés avant les acteurs. Ouais, c'est un réseautage.
Ouais. Et Elizabeth Short faisait partie de le troisième cercle. Hein. Elle côtoyait des amis des acteurs et actrices. Tu comprends? Donc, elle n'était pas dans le milieu des acteurs, mais elle le côtoyait de manière assez éloignée. Et elle rêvait de devenir actrice et elle ne cachait pas qu'elle était prête en tant que femme, et là ça inclut tout ce que tu peux imaginer, en tant que femme, elle était prête à faire n'importe quoi pour réussir à se faire une place au soleil, à se faire une place comme actrice. Mais on n'a jamais trouvé de bout d'essai d'Elizabeth Short, elle n'a jamais été approchée par des producteurs, elle n'a jamais fait d'essai, jamais. Même si elle le confiait, même si elle disait que c'était son rêve, Ça, ça ne s'est jamais produit.
Okay.
Donc, c'est à peu près le personnage qu'on a. Hein? Donc, une jeune femme, 20 ans, qui se retrouve en Californie, c'est l'âge d'or du cinéma. Elle est plutôt jolie. Elle rêve de faire du cinéma, bien sûr. D'ailleurs, il y a plein de photos qui existent d'elle, où on la voit un peu tenant une position un peu à la Marilyn Monroe, à la position des actrices et acteurs. Là, elle regarde derrière, les cheveux défaits. Donc, elle avait un portfolio. Elle espérait visiblement faire sa place, mais ça n'est jamais arrivé.
Donc, elle n'a que caressé le rêve, mais n'a jamais été concrètement dans un film.
Exactement.
Okay.
Et à travers ça, comme je te le dis, elle fréquentait les amis des acteurs et actrices.
Okay.
Et avec eux, bien sûr, parce que c'était un peu aussi la mode, hein, elle côtoyait un peu le milieu interlope. Est-ce que elle faisait partie du milieu interlope? Rien ne permet de croire ça. Encore une fois, dans le film, hein, on entend le narrateur qui dit oui, des bas-fonds de Los Angeles, de la racaille, de la police. Tout ça, là, c'est du mythe, hein. On aime rendre ça noir, là, mais il n'y a pas d'éléments qui permettent de croire ça. Bien sûr, le milieu de Hollywood, le milieu de Los Angeles à l'époque, on parle ici du milieu immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est un peu l'âge d'or, hein, les années à la fin des années 40, début des années 50, on a plein d'acteurs et actrices qui sont là, qui côtoient un peu le monde interlope. Hein, puis certains d'entre eux, hein, parce qu'il faut se rappeler aussi que c'est le moment où Las Vegas est créé.
Ouais.
Et Las Vegas, faut se rappeler que c'est créé par des mafieux, hein, qui veulent bénéficier d'une licence pour le jeu. Et le Nevada est assez laxiste pour les licences pour le jeu.
Comme
ça que Las Vegas naît au milieu du désert. Et on sait que certains d'entre eux, d'ailleurs, aussi avaient des visées sur Hollywood. On pense à Bugsy Malone, hein, qui était un mafieux très célèbre, qui avait ses assises à Las Vegas, à Los Angeles, et qui espérait également entrer dans le giron hollywoodien. Et derrière les grands studios de la Paramount, de la MGM et autres, bien sûr, il y avait toujours un peu ce réseautage un peu mafieux et du monde interlope. Donc, comme Elizabeth Short espérait devenir une vedette de cinéma, comme elle côtoyait des gens qui connaissaient des gens qui connaissaient des gens, bon, on se disait, ben, elle fricote un peu avec le monde interlope, mais il n'y a rien qui permet de croire ça. C'est un peu une légende à la manière de Frank Sinatra, hein, c'est-à-dire que Frank Sinatra, on le sait, il a été un artiste longtemps à Las Vegas, hein, lui et Sammy Davis Jr., Dean Martin faisaient partie de ce qu'on appelait le Rat Pack. C'était des gens qui avaient littéralement l'opinion sur rue à Las Vegas. On sait que Sinatra côtoyait les gens du milieu mafieux, notamment Sam Giancana, qui était un représentant important de la mafia. Et on sait d'ailleurs que lorsqu'il y a eu des élections présidentielles avec Kennedy. Kennedy voulait absolument gagner le Michigan. Et pour gagner le Michigan, à ce moment-là, il y avait une menace de grève des transporteurs, ce qu'on appelait les Teamsters. Hein, c'était le syndicat des Teamsters qui contrôlait le syndicat des camionneurs et qui était bien sûr réseauté, noyauté par la mafia. Et Sinatra, connaissant Sam Giancana, qui connaissait les responsables mafieux derrière le syndicat des Teamsters, ben, il s'est arrangé pour s'assurer que ces gens-là votent pour Kennedy. Donc,
okay.
Quelque part, si JFK a remporté les élections au Michigan, c'est bien parce que Sinatra avait plaidé sa cause auprès de Sam Giancana, qui lui, à son tour, a plaidé la cause de Kennedy auprès des Teamsters. Donc, mais est-ce que lui, Frank Sinatra, si on se posait la question, est-ce que lui, Frank Sinatra, était un mafieux? Ben, rien ne permet de croire ça. Pas plus, d'ailleurs, qu'on peut croire que Elizabeth Short côtoyait le milieu mafieux ou le milieu du monde interlope de Las Vegas. Mais elle était dans le giron. Hein. Quelque part, là, il y avait je pourrais dire qu'il y avait les embruns un peu de ce milieu mafieux, et elle était là. Donc,
mais c'est certainement, elle devait sortir dans les événements mondains où ces gens-là gravitaient autour aussi.
Voilà. Donc, c'est important pourquoi j'insiste là-dessus, parce qu'évidemment, tu comprends que les hypothèses qui seront évoquées ensuite pour essayer d'expliquer sa mort, ben quelque part, on va évoquer ce milieu-là. Est-ce que le monde interlope aurait joué un rôle? D'ailleurs, c'est un peu le scénario qui est développé dans le film de Brian De Palma. Je vais y revenir, mais c'est le scénario que lui développe dans son film, qui est à mon avis une fiction, mais bon. Donc, c'est un peu le personnage qu'on a de cette Elizabeth Short. Donc, si on en revient au lendemain du crime, donc très rapidement, les policiers commencent à enquêter sur ce crime qui est tout à fait sordide. Et là, ben, rapidement, on entend, on voit les journaux qui rapportent des informations. Et il faut quand même le dire, les policiers entendent des informations qui sont fausses, mais ils vont les laisser courir volontairement pour s'assurer que si, par exemple, on dit, Elizabeth Short a été étranglée. Hein, certains médias vont écrire ça dans des journaux de Los Angeles. Elizabeth Short a été étranglée, alors qu'elle l'a pas été. Aucune marque de strangulation. Mais on sait, par exemple, que si on arrête un suspect et que cet individu-là dit, je n'ai pas étranglé Elizabeth Short, alors que tous les journaux disent qu'elle a été étranglée, ben déjà là, on a une information qui est qualitative et qui permet de croire que l'individu dit vrai, qu'il est peut-être l'assassin d'Elizabeth Short.
Ah ouais, on peut tromper les gens comme ça.
Donc, on entend des rumeurs qui circulent et les policiers ne les démentent pas en espérant que, si bien sûr quelqu'un dit « c'est moi qui ai tué Elizabeth Short, je l'ai étranglée », on sait déjà d'emblée que c'est pas lui, parce qu'Elizabeth Short n'a pas été étranglée. Donc, il y a plusieurs rumeurs qui vont circuler et qui vont entretenir le mythe d'Elizabeth Short volontairement par la police. Les grandes histoires qu'on entend, et encore aujourd'hui, en 2023, des histoires, moi, que j'entends sur Elizabeth Short, on nous dit elle a eu des dents brisées, comme je l'ai mentionné, par une altercation avec son agresseur, ce qui est faux. On nous dit qu'elle a été étranglée, c'est faux. Des organes manquants, c'est faux. Marque de torture, c'est faux. Les seins coupés, c'est faux. Elle avait des lacérations. Elle avait une lacération, d'ailleurs, sur le côté d'un mamelon. Mais de dire qu'elle avait eu les seins coupés, c'est pas vrai.
Okay.
Et bien sûr, cette espèce d'atrophie vaginale, qui est le grand mythe d'Elizabeth Short, hein, on disait, c'est une allumeuse, mais elle ne peut pas avoir des relations sexuelles à cause de cette malformation congénitale. Ça, bien sûr, c'est faux aussi. Donc, les policiers savent déjà, là, ces éléments-là commencent à circuler dans les jours, les semaines qui suivent la mort d'Elizabeth Short. On voit ça dans les journaux, mais les policiers, eux, ont quand même établi les éléments à partir du rapport du médecin légiste et on sait exactement ce qui s'est... quels sont les véritables états pathologiques au moment où Elizabeth Short a été assassinée. On va questionner dans les jours et les semaines qui vont suivre des amis, des parents, des connaissances, une horde de petits amis, d'amants... Et selon les versions, on parle, on aurait interrogé entre 50 et 500 personnes, donc qui auraient côtoyé de près ou de loin Elizabeth Short et qui auraient pu fournir de l'information sur les individus qu'elle côtoyait, qui auraient peut-être été plus louches. Mais tout ça nous a amené dans un cul-de-sac. On n'a rien trouvé dans ce sens-là.
Avec un échantillonnage aussi grand de personnes?
Oui, rien. Personne. On n'a aucun suspect qui est sorti du lot. Ce qu'on a pu établir, c'est que Elizabeth Short a peut-être un peu joué trop la carte de la séduction. Ça, c'est revenu souvent dans l'enquête policière. Elle joue un peu les racoleuses. Certains ont même prétendu qu'elle s'était adonnée à de la prostitution. Si c'est vrai, ça n'a jamais fait l'objet d'un rapport de police. Donc, on sait que c'était une racoleuse, on sait que c'était une allumeuse. Est-ce que tout ça lui a valu éventuellement une vindicte de certains amants et conduits? C'est possible. Mais au-delà de ce constat-là, là, de la racoleuse allumeuse, on n'a rien pu déterminer qui aurait pu amener à cibler un individu en particulier... Pour établir, va dire, ben voilà, c'est lui qui est l'assassin d'Elizabeth Short. C'est pas arrivé. Mais en fait, on n'a pas vraiment eu besoin de ça, parce que très rapidement, hein, le corps de Short est découvert à la mi-janvier, une semaine après la découverte du corps d'Elizabeth Short, ben l'assassin va se manifester.
Oh!
Et c'est pourquoi peut-être cette histoire-là a joué sur une telle fascination du public américain, parce qu'on est dans un scénario digne d'un film. Je comprends que, tu sais, Elizabeth Short, hein, aujourd'hui, on a, je pense, 6 ou 7 films qui ont été faits sur elle, ou été inspirés d'elle. Hein. Il y a, je pense, 3 ou 4 films qui ont été faits pour la télévision, dont l'un avec, si je me trompe pas, c'était Al Pacino qui jouait dedans,
okay.
Robert De Niro, excuse-moi. Donc, on s'était inspiré d'Elizabeth Short, des films tourné soit pour le cinéma, soit pour la télévision. Donc, c'est vraiment un scénario digne d'Hollywood et on le comprend qu'on était inspiré par cette histoire-là. Le 22 janvier 1947, à peu près une semaine après la mort d'Elizabeth Short, il y a un individu qui contacte James Richardson, qui est l'éditeur du Los Angeles Examiner, pourquoi le Los Angeles Examiner, les policiers vont essayer de trouver une trace, hein, peut-être le gars était-il un frustré du journal Examiner. Tu sais, toutes les avenues ont été explorées. Hein. Pourquoi le Examiner? Pourquoi ce journal-là? Est-ce que c'est un ancien journaliste, un lecteur insatisfait du journal? En
tout cas, bref, a été suranalysé.
Oui, tout a été suranalysé. Donc, cet individu contacte Jim Richardson. Il parle avec une voix très posée. Hein. Richardson va dire, le type avait une voix posée, clair, et semblait montrer une forme d'éducation. Hein. Il parlait d'une voix qui laissait supposer que l'individu était éduqué. D'abord, il va commencer par féliciter James Richardson par la couverture du Examiner sur la mort d'Elizabeth Short, et il lui dit qu'il va lui envoyer une enveloppe contenant des objets que Elizabeth Short avait, et c'est amusant parce qu'il dit qu'elle avait au moment de, puis là, il prend une pause, hein, c'est Richardson qui détaille ça, il a pris une pause, puis il a dit des objets qu'elle avait avant de disparaître, hein, c'était un peu ce qu'il dit, t'sais, il prend une pause avant de dire avant de disparaître, et donc et après ça, il raccroche, donc on attend, et effectivement le 25 janvier, donc 3 jours après le coup de téléphone, le journal The Examiner reçoit une enveloppe beige, là, comme on en voit, et c'est assez amusant parce que l'expéditeur a découpé des lettres dans différents journaux.
Ah oui, il a fait un collage.
Ouais, il a fait un collage et sur le collage, hein, c'est marqué si vous trouverez ici des objets qui appartenaient à la Dahlia, hein, here is Dahlia belonging. Donc il reçoit l'enveloppe immédiatement, bien sûr, l'enveloppe est envoyée au service de police. On ne trouve que deux petites empreintes partielles, mais beaucoup trop partielles pour pouvoir déterminer quoi que ce soit. Et on constate également que à la fois les journaux utilisés pour coller les lettres, autant que l'enveloppe elle-même a été nettoyée avec de l'essence. Donc l'individu a mis de l'essence sur un linge et il a frotté l'enveloppe pour visiblement faire disparaître les empreintes. À peu près au même moment, d'ailleurs, on va retrouver, pas tellement loin de l'endroit où on a trouvé le corps d'Elizabeth Short, on va retrouver dans un conteneur à déchets des souliers, une pièce de vêtement et également un sac à main qui visiblement était celui d'Elizabeth Short. Et là aussi, ils ont été nettoyés avec de l'essence. C'est assez curieux parce que, oui, l'essence, ça peut faire disparaître les empreintes parce que les empreintes sont laissées par le gras des doigts, là, le sébum.
Ouais.
Mais c'est peu connu que l'essence peut être utilisée pour ça. On se serait attendu à ce que l'individu l'aurait détruit, hein, ou il aurait mis des gants, alors que là, visiblement, l'auteur a pas mis des gants, mais il s'est contenté d'effacer ses empreintes en utilisant de l'essence.
Avec une méthode raffinée. Moi, je veux pas donner de trucs à personne, mais ça a l'air que ça fonctionne.
C'est ça.
Et là, j'aurais appris ça ce soir, Christelle.
Ouais, il y a plusieurs objets, hein, mais bon, ce qu'on retrouve principalement, il y a des photographies qui sont clairement des photographies d'Elizabeth Short avec des amis, tout ça. Il y a des articles de journaux qui couvrent l'assassinat d'Elizabeth Short. Il y a un livre d'adresse, et donc c'est assez amusant parce que le livre d'adresse c'est un livre d'adresse qui appartenait à Elizabeth Short, mais c'est un livre d'adresse qui lui avait été donné par quelqu'un. Donc, sur le dessus du livre, comme en lettres dorées, c'est marqué Michael. Mais qui est ce Michael? Éventuellement, on va déterminer qui est le Michael. C'est un ancien amant d'Elizabeth Short. C'est visiblement lui qui lui a donné ce livre d'adresse qu'il n'avait pas utilisé. Il n'a rien à voir avec le crime. Très rapidement, il est écarté de la liste des suspects. Et à l'intérieur du livre d'adresse qui contient plein de noms, de numéros de téléphone, il y a une page qui a été volontairement et minutieusement déchirée. Donc, on se dit, est-ce que c'est Elizabeth Short qui a déchiré cette page-là? Ou est-ce que c'est l'assassin qui l'a déchiré parce que son nom figurait sur la page en question? Bref, on trouve ces quelques objets, on trouve une brosse également, et tout ça, tous les objets ont été, là aussi, nettoyés avec de l'essence pour s'assurer qu'il n'y ait pas aucune empreinte digitale. Il n'y a ni les empreintes de l'assassin, et il n'y a pas non plus les empreintes d'Elizabeth Short sur ces objets-là. Mais il ne fait aucun doute parce que ces objets-là présentés à des proches, tous ces gens-là vont reconnaître qu'il s'agit effectivement des objets qui appartenaient à Elizabeth Short. Le lendemain de l'envoi de cette enveloppe, et là tu comprends, hein, la presse, tu sais, peu d'assassins à ce moment-là se sont amusés à écrire des notes à la police. Et de triste mémoire, on se souvient tous de Jack l'Éventreur, voilà, qui faisait ça. Et immédiatement dans l'imaginaire, c'est un peu ce qui frappe.
Ben, je me trompe-tu aussi, Christian, ou le mythe qu'il manquait des organes à certaines victimes vient aussi de Jack l'Éventreur?
On a même été plus loin que ça, tu vois, que même dans les théories qu'on a avancées, il y en a qui foisonnent, qui sont très très proche, hein. L'idée que la victime a été tuée par un médecin qui l'a découpée en morceaux.
Oh,
on retrouve les éléments de l'Éventreur là-dedans, puis on va même à un moment donné dire elle a été tuée par un groupe de gens qui devaient être des mafieux, mais dans le cas de l'Éventreur, c'est elle, les victimes ont été tuées par un groupe de gens qui étaient des francs-maçons. C'est donc, tu vois, on récupère un peu des grands mythes qui entourent Jack l'Éventreur, et là, bien sûr, cet assassin qui envoie des lettres à la police, et en particulier aux journaux, et encore là, c'est un autre élément, hein. L'Éventreur n'envoyait pas des lettres à la police. Il envoyait des lettres aux journaux, même si aujourd'hui on sait que la plus célèbre lettre de Jack l'Éventreur, qu'on appelle la Dear Boss Letter, n'a pas été signée de la main de l'assassin. Elle est visiblement une mauvaise plaisanterie d'un journaliste. Il faut quand même se rappeler que cette lettre-là n'avait pas été envoyée à la police, mais elle avait été envoyée à l'agence centrale de la presse de Londres. Et c'est dans cette fameuse lettre qu'à la fin, l'auteur dit la blague du tablier de cuir que la police a avancé pour essayer de me décrire, ça m'a fait bien rire, mais puisqu'ils aiment des pseudonymes, je vous en donne un, pourquoi pas celui-ci, votre ami Jack l'Éventreur. Et c'est comme ça que le nom va passer à l'histoire. Ensuite, la police de Londres va recevoir plus de 300 lettres. La police, les services de presse, etc. vont recevoir plus de 300 lettres soi-disant signées de la main de l'Éventreur. Aucune d'entre elles n'est signée du même auteur, hein. Et qu'en comparant les écritures, on voit que ce sont toujours des gens différents qui écrivent ces lettres-là. Et de toutes ces lettres-là, encore aujourd'hui, en 2023, on croit que de toutes ces lettres-là, aucune d'entre elles n'a été écrite par l'assassin. Sauf une qui n'a pas été envoyé ni à la presse ni à la police, mais à un individu. On est à ce moment-là en octobre 19, on est à la mi-octobre 1888. Il y a des comités de vigilance qui se sont formés dans les rues de Londres, qui patrouillent les rues avec des bâtons de baseball, des gourdins, on espère attraper l'assassin. Et il y a un individu qui s'appelle George Lusk, qui se fait un peu un capital politique. Hein. Lui, il en profite pour dire oui, si ses victimes avaient été assassinées dans les quartiers aisés de Lambeth ou de Belgravia à Londres, il y a longtemps que la police aurait arrêté l'assassin. Mais comme les victimes sont dans le East London, Whitechapel, Spitalfields, on ferme les yeux, on laisse faire, etc. Puis là, tu comprends, on en profitait pour chialer après la police, chialer après la reine, chialer après le premier ministre, on chialait après tout le monde. Cet individu qui se faisait un capital comme ça s'appelait George Lusk, et il n'arrêtait pas de répéter que éventuellement lui allait réussir là où la police n'avait pas réussi. Lui allait arrêter Jack l'Éventreur. Et puis le 16 octobre 1888, il reçoit une petite boîte enveloppée dans un papier brun taché de sang. Il ouvre la boîte et à l'intérieur, il y a un morceau de chair visqueux et il y a une lettre d'accompagnement et la lettre dit « Cher Monsieur Lusk de l'enfer, vous trouverez ci-joint la moitié d'un rein que j'ai prélevé sur ma dernière victime. L'autre moitié, je l'ai fait frire et je l'ai mangé.
Ouais.
C'était délicieux. Si vous patientez un peu, peut-être vous enverrai-je le couteau avec lequel je l'ai prélevé. Et c'est simplement signé de attrapez-moi si vous le pouvez. Il n'y a pas de Jack l'Éventreur, il n'y a rien, il n'y a pas de signature, il n'y a rien que ça. Attrapez-moi si vous le pouvez. Comme si l'auteur de cette lettre-là n'avait pas voulu s'identifier à cette invention journalistique de Jack l'Éventreur. Il n'est pas Jack l'Éventreur. Il est l'assassin de Whitechapel. Mais Jack l'Éventreur est un mythe inventé par les journalistes. C'est un peu comme s'il avait voulu prendre un peu d'écart ou un retrait par rapport à ça. Et aujourd'hui, quand on parle avec les spécialistes, et je sais que l'Éventreur t'a quand même intéressé un peu, quand on parle avec les spécialistes, de toutes les lettres reçues par la presse de Londres, la police de Londres, ou les peu importe, de toutes les lettres soi-disant de l'Éventreur, s'il y en a une vraie, c'est celle-là. C'est celle qu'on appelle la lettre à George Lusk, la From Hell, hein, la lettre qui commence par de l'enfer. Donc, dans le cas de Elizabeth Short, pour revenir à notre histoire, c'est quand même étonnant que l'assassin, apparemment, et il le prouve qu'il est l'assassin, hein, les documents qu'il envoie sont clairement des documents qui appartiennent à Elizabeth Short. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, il est très clairement l'assassin et il s'adresse aux journaux, hein. Visiblement, il veut qu'on parle de lui. Donc, il envoie cette lettre qui contient des objets, et voilà que le lendemain, il envoie une autre lettre, là aussi découpée avec des caractères de journaux, et dans lequel, écoute, on est dans un scénario de film, là, il dit « Je vais me livrer à l'Examiner ». Ça, c'est le journal, hein, il dit « Je vais me livrer à l'Examiner le 29 janvier à 10h du matin ». Et il signe sa lettre « The Black Dahlia Avenger ». C'est quand même incroyable.
C'est cosmique,
là,
ben oui.
Mais oui, tu dis, c'est que non, on est en orbite, là, tu sais, voyons. C'est... Alors, inutile de te dire que le jeudi, le 29 janvier, tous les locaux de l'Examiner étaient surveillés par des policiers. On attendait le fameux coup de 10 heures pour voir si un individu se présenterait à la réception pour y lui mettre le grappin dessus, mais ça ne se produit pas. Et le même jour, toujours ce 29 janvier, un peu plus tard dans l'après-midi, il y a comme un double pour le journal, pour les journaux et les médias, il y a des doubles services de poste. Hein, donc, on envoie une information et même, à l'époque, il y avait beaucoup de journaux qui publiaient une édition du matin et une édition du soir. Et donc, un peu plus tard, cette même journée du 29 janvier, en début d'après-midi, on reçoit une autre lettre. Encore une fois, une lettre découpée, écrite avec des lettres prises dans des journaux de la grande région de Los Angeles. Et l'auteur dit « J'ai changé d'avis. La police ne me donnerait d'ailleurs aucune chance. » Il ajoute « Le meurtre de la Dahlia était justifié. »
Mais pourquoi?
Et on n'entendra plus jamais parler de lui. C'est la dernière lettre que va envoyer cet auteur-là. Et après, c'est la disparition de l'auteur de celui qui semble a priori être l'assassin d'Elizabeth Short. Et il ne donne aucune raison de sa motivation. La seule chose qu'il dit, le meurtre de la Black Dahlia était justifié. Et maintenant, on va tomber dans les spéculations.
Ah oui, parce
qui se trouve, derrière le meurtre de la Dahlia noire? Je te le raconte après la pause.
Et même depuis le début, Christian, je te le dis, là, je me demande comment elle le fait pour se retrouver là. Pourquoi? Pourquoi il était justifié?
Ouais. Et donc, on s'en reparle après la pause.
Parfait.
Radio X-Files. Execute program. Avec Christian Page et Camille. Radio X.
On est rendu dans l'étape crunchy, mon cher Christian, de notre histoire. Quelle histoire de meurtre! On sait pas.
Incroyable.
Qui ressemble beaucoup à Jack l'Éventreur. On sait pas c'est qui et on sait surtout pas pourquoi la victime s'est ramassée dans cette situation-là. Et je suis curieux d'entendre les spéculations de l'époque.
Et malheureusement, comme le temps file, je vais devoir couper un peu dans le gras parce que c'est une histoire qui est excessivement complexe. Mais il faut savoir que encore aujourd'hui, 2023, le dossier de la mort d'Elizabeth Short est toujours ouvert à la police de Los Angeles.
Okay, c'est un dossier non froid encore.
Oui, absolument, c'est un dossier qui est toujours ouvert. Il y a eu des centaines d'interrogatoires qui ont été menés pour essayer de retrouver l'assassin et des dizaines de suspects potentiels qui ont été suivis, qui ont été enquêtés, mais tout ça n'a jamais conduit à une arrestation. Donc, au moment où on se parle, 2023, soyons clairs, l'assassin d'Elizabeth Short n'a jamais été arrêté. Mais évidemment, toutes sortes d'hypothèses ont été évoquées. L'une des hypothèses qui assez rapidement est sortie sur dans les cahiers des enquêteurs, certains se sont dit voilà, entre 1934 et 1939, il y a eu un mystérieux tueur et on en a parlé en début d'émission, le fameux boucher de Cleveland. Cet assassin a commis une douzaine d'assassinats durant cette période. L'histoire a été un peu oubliée parce que immédiatement après la série de crimes du boucher de Cleveland, ça a été la Deuxième Guerre mondiale et l'affaire est tombée un peu comme dans aux oubliettes. Mais évidemment, quand la mort d'Elizabeth Short survient en 1947, on se dit, ben voilà, il n'y a pas si longtemps, il y avait un mystérieux tueur à Cleveland qui commettait des crimes sur des individus qu'on appelait des pervers. Hein. C'était toujours des pervers. Mais il faut s'entendre, là, la définition de pervers en 1936, Un homosexuel, c'est un pervers. Lesbienne, ouais. C'est un pervers. Quelqu'un qui s'adonne à la sodomie, c'est un pervers.
Et une dans fille le cas avec une jupe aux genoux, c'est une perverse.
Une perverse. Et il faut quand même le dire, hein, dans le cas d'Elizabeth Short, petit détail un peu sordide, mais il y a des éléments qui laissent présager. On a fait des prélèvements de sperme vaginaux et anaux. On n'a pas trouvé de traces de sperme, mais il y a des bonnes raisons de croire que Elizabeth Short aurait pu avoir une agression sexuelle. Et il y avait une dilatation anormale de l'anus. Donc, on croit qu'elle aurait probablement été sodomisée, même si on n'a pas trouvé de sperme. Alors, évidemment, qui s'adonne à des activités de sodomie, un sodomite, puis les sodomites, c'est des pervers. Donc, évidemment, on se dit, voilà, ce curieux tueur, le boucher de Cleveland, assassinait des gens, on le sait, la liste de ses victimes était des gens qui fréquentaient les milieux un peu déjanté de Cleveland. Les victimes avaient des mutilations. Est-ce qu'il pouvait, et des mutilations aux organes génitaux et également ils étaient décapités. Dans le cas d'Elizabeth Short, elle n'a pas été décapitée, mais elle a été coupée en deux et elle avait également des lacérations autour du vagin. Encore une fois, ce sont des lacérations qui sont post-mortem et qui n'ont rien à voir avec un aspect de torture, mais il y avait quand même des lacérations post-mortem. Donc rapidement, on s'est mis à penser à ça et on s'est dit, est-ce qu'il pourrait s'agir du même assassin. Puis il faut savoir que dans le cas du boucher de Cleveland, il n'a jamais été arrêté. Hein. À l'époque, l'enquête policière avait été menée par un individu qui s'appelle Elliot Ness, une célébrité. Je sais que tu m'avais dit à l'époque que tu connaissais pas Elliot Ness, mais c'était un policier qui avait d'ailleurs procédé, et c'est lui qui avait permis d'arrêter Al Capone à l'époque de la prohibition d'alcool. Il avait donc mis sur les genoux la mafia de Chicago. C'est un individu, une célébrité. Là. C'était la police parmi les polices. Et à ce moment-là, entre 1935 et 1939, au moment où le boucher de Cleveland va commettre ses crimes, Ness est le directeur de la sécurité de la ville, la sécurité nationale, la sécurité provinciale pour Cleveland. Et il va échouer à arrêter le boucher de Cleveland. D'ailleurs, okay. Il avait des visées politiques. Hein, il espérait devenir le maire de Cleveland. Et le fait qu'il a échoué, il y avait également des raisons, d'autres contraintes politiques qui ont fait qu'il a perdu les élections. Mais le fait de ne pas avoir arrêté le boucher de Cleveland a joué fortement sur les élections de 39 qui lui aurait peut-être permis de devenir maire de la ville. Donc, bref, les crimes du boucher de Cleveland ont très rapidement été évoqués dans l'investigation policière de 1947. Mais on s'est dit, oui, mais les victimes du boucher de Cleveland étaient des gens qui appartenaient, qui étaient la plupart des prostituées, etc. Ce qui n'était pas le cas d'Elizabeth Short. Oui, c'était une allumeuse. Oui, c'était une aguicheuse. Mais c'était pas vraiment une prostituée. Et également les mutilations, même si les mutilations semblaient avoir une espèce de signature chirurgicale dans le cas d'Elizabeth Short, et c'était également le cas pour le boucher de Cleveland, rien dans l'aspect des mutilations était identique. Hein. Elizabeth Short a été coupée en deux, alors que le boucher de Cleveland, lui, se contentait généralement de décapiter ses victimes ou de couper les mains et les pieds. Et principalement, pourquoi couper les mains? Ben parce que si t'as pas les mains de l'individu, c'est plus difficile à l'identifier. Dans le cas d'Elizabeth Short, c'est pas ce que l'assassin a fait. Donc, assez rapidement, cette idée potentielle que le boucher de Cleveland avait pu quitter la région de Cleveland pour aller installer ses pénates à Los Angeles et assassiner Elizabeth Short a été mise de côté. On s'est dit non, c'est sûrement pas ça. Alors là, pendant des années, l'affaire d'Elizabeth Short a perdu un peu de sa popularité. On n'a pas arrêté personne. Et c'est assez curieux parce qu'il faut vraiment attendre les années 70 et 80. Donc, on est quand même 30 à 40 ans après le crime pour que de nouveaux suspects fassent leur apparition. Et quand je te mentionnais que cette histoire-là ressemble étrangement à l'affaire de l'éventreur, ben, on est exactement dans les mêmes eaux. C'est-à-dire que les hypothèses vont apparaître souvent des décennies après. Et là, on raconte du grand n'importe quoi. Hein. Et j'en ai choisi quelques-unes. Il y en a plein d'autres, mais j'en ai choisi celles que j'ai trouvées les plus fantaisistes. En 1987, par exemple, Il y a un auteur qui s'appelle John Gilmore, qui est un auteur américain de la région de Los Angeles, qui a écrit d'ailleurs plusieurs ouvrages policiers, etc. Et lui, il dit, voilà, j'ai identifié, il publie un ouvrage qui s'appelle Severed, dans ses découpés, séparés, la véritable histoire du meurtre de la Black Dahlia. Severed, The True Story of the Black Dahlia Murder. Et lui, il dit, l'assassin était un certain Jack Anderson Wilson. C'est quoi ça, Jack Anderson Wilson? Et là, il raconte qu'il a eu accès à des informations, que cet individu aurait été dans le collimateur de la police. Son nom est jamais apparu dans les journaux. Son nom n'a jamais été révélé publiquement. Et il était le principal suspect du chef policier enquêteur dans le cas des crimes de la Dahlia Noire. Un policier qui s'appelait, on le surnommait Jigsaw, là, pas un casse-tête, mais son véritable nom était John St. John. Et il dit, voilà, ça c'était le suspect favori de John St. John. Le problème de ça, c'est que malheureusement, quand les gens se sont retournés au moment où Gilmore fait cette affirmation-là, le fameux policier en question, il est retraité, il vit dans une maison de retraite, il est très âgé, il a 92 ans, mais il est encore vivant. Donc on est allé voir John St. John pour lui demander cette histoire-là, il a dit, ça là, c'est de la bullshit. Non seulement cet individu, ce soi-disant Jack Anderson Wilson n'a jamais été un suspect, il n'a jamais été retenu par les policiers. Ça, c'est vraiment de la bullshit. Donc, merci, bonsoir. On voit ici un auteur qui a voulu, comme on dit, être dans la photo. Il a voulu écrire un ouvrage pour que son nom soit associé au crime de la Dahlia Noire, mais finalement, il n'y a absolument rien qui va dans ce sens-là. Ensuite, en 1989, donc 2 ans plus tard, on a une dame, et là, écoute, c'est vraiment un scénario de film. On a une femme qui s'appelle Janice Knowlton, et Janice Knowlton vit une dépression, et là, à ce moment-là, elle décide de suivre des traitements d'hypnothérapie, hein, pour passer au-delà de sa dépression. Et là, alors qu'elle est sous l'hypnose, elle commence à raconter qu'elle se souvient que son père était un personnage étrange, s'appelait George Frederick Knowlton, puis là, elle dit, voilà, selon mon avis, mon père, elle croit avoir des souvenirs que son père aurait connu Elizabeth Short et que son père aurait assassiné plusieurs femmes à travers les États-Unis. Et là, elle dit, ben voilà, finalement, mon père, c'est le fameux tueur en question. C'est lui qui a tué la Dahlia Noire. Et en 95, elle va publier un ouvrage qui s'appelle Daddy Was the Black Dahlia Killer, dans lequel elle dit qu'elle a tous ces souvenirs-là, qui l'ont ramené à son enfance, des actions que son père a commis, des chuchotements, des phrases ou des éléments qui lui auraient permis de croire qu'il connaissait Elizabeth Short, qu'il était un tueur en série et qu'il aurait commis des crimes un peu partout aux États-Unis. Évidemment, c'est facile. Elle dit ça en 95, basé sur des souvenirs obtenus sous hypnose, alors que son père, en fait, est décédé en 1962 avec l'un de ses fils dans un accident de voiture. Donc, difficile d'interroger le bonhomme pour avoir sa version de l'histoire. Et inutile de dire que ce scénario-là n'a jamais été pris au sérieux parce que ou bien elle mentait, hein, on peut se dire, ben, peut-être qu'elle a raconté tout ça un peu pour avoir elle aussi prendre part au récit de la Dahlia Noire.
Mais pensez, Christian, comment tu veux vendre ton père de même, puis imagine les répercussions là, de se mettre dans photo, là, c'est grave.
Ouais, et d'autres croient que peut-être que, on le sait, sous hypnose, tu te mets à raconter des histoires et ton imagination s'emballe. Donc, à partir de quelques éléments, l'imagination peut s'emballer, ce qu'on appelle des fausses mémoires,
des faux souvenirs.
Elle reconstruit des éléments, les associe et finalement, c'est créer un scénario complètement fantasmé dans lequel c'est son père qui devient l'assassin de la Dahlia Noire. Et ensuite, toujours pour rester un peu dans cette idée de Jack l'Éventreur, on s'attendait bien à ce qu'à un moment donné, un médecin apparaîtrait dans le lot. Hein?
Ce
médecin-là, il apparaît en 96. C'est un certain Larry Harnish, qui est un journaliste du Los Angeles Times, qui publie un article dans lequel il dit « Le tueur en question, c'est un médecin, c'est le docteur Walter Alonzo Bailey. C'est lui qui aurait assassiné Elizabeth Short. » Et là, il va développer dans une série d'articles qu'il va publier, il dit « Ce fameux Bailey, appartenait à habiter un appartement pas très loin du lot vacant où on a retrouvé le corps d'Elizabeth Short en 1947. Voilà, c'est mince, faut quand même le dire, c'est quand même mince. Il dit également que l'une des filles de ce docteur Bailey connaissait, était une amie d'Elizabeth Short, et il va même jusqu'à dire que Elizabeth Short appartenait à une famille recomposée. Il dit, voilà, l'un des beaux-frères, donc le frère, un frère recomposé d'Elizabeth Short, aurait même été un des témoins au mariage du docteur Bailey. Mais le problème de ça, il dit également, le docteur Bailey cachait, et d'après des rumeurs, le docteur Bailey cachait des secrets, et au moment où le docteur Bailey est décédé, un an après la mort d'Elizabeth Short, au moment où on a fait son autopsie, on a révélé qu'il présentait des signes de démence. Donc, tous ces éléments-là, pour Larry Harnish, deviennent des éléments qui constitue une culpabilité du fameux docteur Bailey. Hein. Il habitait un appartement près du lot où on a retrouvé Elizabeth Short. Sa fille connaissait Elizabeth Short. Apparemment, le beau-frère d'Elizabeth Short aurait été un des témoins à son mariage, ce qui n'a jamais été démontré. Et au moment de son décès, il souffrait d'une démence. Le problème, c'est que quand on fouille plus loin, on découvre qu'il n'y a rien de ça ne permet vraiment de rattacher le docteur Bailey à Elizabeth Short. Et le docteur Bailey a été accusé à un moment donné d'avoir fait des avortements illégaux. Hein. Faut se rappeler qu'on est dans les années 40. Donc le fameux secret, hein, les secrets du docteur Bailey qu'évoque Harnish, Larry Harnish, en lui disant c'est peut-être qu'il cachait le fait d'avoir assassiné Elizabeth Short. Ben tu comprends que il est plus vraisemblable que les secrets du docteur Bailey concernaient plutôt des avortements illégaux qu'il pratiquait dans la grande région de Los Angeles. Donc, encore une fois, il faut éliminer cette possibilité-là. Mais évidemment, ça faisait bien dans le tableau parce qu'on est en présence ici d'un médecin.
Qu'est-ce qui est tiré par les cheveux, hein?
Ouais, ouais. En 2003, écoute, celle-là est vraiment bonne. 2003, un certain Steve Odell, qui lui est un ancien policier de Los Angeles, il publie un ouvrage qui s'intitule Black Dahlia Avenger. Hein, c'est le nom de l'assassin qui avait signé dans une lettre. Là, il dit Black Dahlia Avenger. Et là, lui, il accuse son père, lui aussi, hein, c'est son père aussi qui est l'assassin, qui était le docteur George Odell. Il dit, c'est mon père qui était l'assassin d'Elizabeth Short. Et là, malheureusement, son scénario repose sur pas grand-chose. Hein. C'est vrai que le docteur Odell a été accusé en octobre 1949, donc 2 ans après la mort d'Elizabeth Short. Il a été accusé d'avoir molesté sa fille de 14 ans. L'article dit « molesté », entendons-nous, c'est des attouchements sexuels, mais le jury l'a déclaré non coupable. Donc après le procès, il a été déclaré non coupable. Mais ça nous montre que c'est un individu qui était un peu louche quand même.
Ouais.
Bon. Et ensuite de ça, c'est vrai que durant un moment, ce fameux docteur Odell a vraiment été dans le collimateur de la police de Los Angeles comme étant un possible suspect dans l'affaire d'Elizabeth Short. C'est vrai qu'à l'époque, le docteur Odell exploitait une clinique médicale qui était pas tellement loin des lieux où le meurtre a eu lieu, et une rumeur disait que l'une de ses patientes était Elizabeth Short. Et à cause de ça, ben, il s'était retrouvé dans le collimateur de la police. Sauf que quand on vérifie les archives de la police, on se rend compte que dès 1950, le fameux docteur Odell avait été éliminé de la liste des suspects. Donc, en dehors de ça, ces faibles éléments, on comprend que ce fameux Steve Odell aime bien peut-être pointer du doigt son père, mais les éléments montrent que le docteur Odell n'avait visiblement rien à voir avec la mort d'Elizabeth Short.
Ouais.
Et là, comme il ne reste plus de temps...
Je comprends le cul-de-sac dans lequel on se retrouve encore aujourd'hui.
Mais là, comme il ne reste plus de temps, je veux quand même te mentionner que le scénario qu'on retrouve dans le film de Brian De Palma, il est basé sur un livre qui est sorti en 2005 d'un auteur qui s'appelle Donald Wolfe, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle The Black Dahlia File. Et là, on est vraiment dans le Jack l'Éventreur. Lui, selon sa version à lui, c'est que Elizabeth Short était enceinte. Elle était enceinte du propriétaire du journal Los Angeles Times, un dénommé Norman Chandler.
Okay.
Et elle aurait voulu le faire chanter. Lui, il lui aurait demandé de se faire avorter. Elle aurait refusé et elle l'aurait menacé de le faire chanter. Et à ce moment-là, Chandler aurait engagé une série de tueurs à gages, incluant nul autre d'ailleurs que le mafieux Boxy Siegel, hein, que je t'ai mentionné plus tôt.
Okay. D'ailleurs,